Bonjour à tous et à toutes, merci d'écouter ce premier podcast d'Ingénieurs du Monde. On est dans le studio de Fréquence Banane qui ont la gentillesse de nous laisser enregistrer chez eux. Je suis en compagnie de Lena.
Hello.
Et Rita.
Salut Lucas.
Et aujourd'hui, on va vous faire une revue de l'actualité de ces dernières semaines de manière un petit peu décalée. Alors pour commencer, je vais vous parler de Grison et de... Non, c'est marqué quoi c'est...
Vison, je
ah,
crois.
Ah oui, Vison, oui, c'est vrai. Oui, non, parce qu'au Danemark... Après qu'ils aient détecté une mutation du virus du Covid-19 chez les visons, le gouvernement danois a ordonné le 4 novembre dernier d'abattre leurs 17 000... pas beaucoup. C'est écrit
17
quoi, là, j'ai
millions
pas... Oui, c'est ça. 17 millions. Oh, non, j'ai pas mes lunettes. Et du coup, voilà, les 17 millions de visons qui sont en élevage au Danemark. Le Danemark qui est le premier exportateur de fourrure de visons au monde. Alors pour comparer... Il faut savoir que la population danoise se monte à 5,8 millions d'habitants. Ce qui a fait peur à tout le monde, c'est que le virus qu'ils ont découvert n'a rien à voir avec la souche d'origine. Et du coup, il pourrait compromettre la réussite d'un vaccin, vu qu'il serait résistant aux anticorps qu'on développe pour le Covid-19 original. Mais, le 10 novembre, le Premier ministre a reconnu que cet ordre n'avait pas de fondement légal. Alors ça, c'est la version officielle, hein. Parce que moi, je pense qu'ils ont plutôt mal compris le Premier ministre. Il a dû dire un truc du genre « Il me faut de la viande séchée des grisons ». Et ils ont entendu « Il me faut euthanasier tous les visons ». Quoi qu'il en soit, après cette déclaration, il a quand même encouragé les éleveurs à continuer de zigouiller leurs petites bêtes en attendant que le projet de loi soit correctement approuvé par le gouvernement, ce qui peut prendre plusieurs semaines. Mais pendant ce temps, 2,4 millions de visons avaient déjà été abattus. Ce qui est équivalent à peu près la moitié de la population danoise. Ils sont quand même vachement efficaces. En semblant de bonnes nouvelles, quand même, le Danemark et plusieurs autres pays réfléchissent à interdire l'élevage de ce genre d'animaux. Parce que quand même, en me renseignant un petit peu sur le sujet et en faisant des recherches, je suis tombé sur des vidéos de visons. Et en fait, ils sont trop choux, ils ont des petits yeux globuleux. Et dans les vidéos, ils étaient dans des cages. Et après, ils se font euthanasier. Et ensuite, on voit des pelleteuses qui déversent leur corps dans un fossé. Après, il paraît qu'ils ont été brûlés.
Non. Ça va aller, Lucas ?
Oui, non, c'est bon. Alors, en plus de ça, je suis tombé sur une déclaration choquante de la maire d'une petite commune où il y a des élevages de visons. Je ne vais pas me risquer à prononcer le nom de cette commune.
Si, vas-y.
Mais non, en plus mon danois est un petit peu rouillé, j'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes. C'est Friedrichshafen.
Ah, c'est pas si mal.
Ouais, bon, bref, la mère de ce petit village a déclaré « Le plus dur, c'est de voir à quel point les éleveurs souffrent. Pour eux, c'est tragique. » Alors, ce qui m'a choqué, c'est qu'on parle beaucoup des éleveurs qui souffrent, mais il y a une autre souffrance, beaucoup plus intense, dont on ne parle jamais. Il s'agit des riches clients. Qui ont besoin de cette fourrure et qui vont se prendre de plein fouet les conséquences de cette décision. Comment est-ce qu'ils vont faire pour survivre à l'hiver, hein ? On peut parler d'économie et tout ça, là il y a du monde, hein, mais quand il s'agit d'émotion, là vraiment il n'y a plus personne.
C'est bon, on a compris, Lucas. Pauvre Vison. Mais franchement, le Danemark, on s'en fiche un peu. C'est loin. Moi je vais te parler d'un problème plus local. Je vais te parler de la mafia. Mais pas la mafia italienne, c'est démodé. La mafia made in Switzerland. Tu n'as pas lu le dernier article de la N77 ?
La N quoi ?
Tu ne connais pas la Neue Zürcher Zeitung ?
C'est suisse allemand, j'imagine.
Bingo ! Quoi qu'il en soit, tu n'imagines pas ce qui se passe là-bas. Et probablement aussi ici, en Romandie.
Bah raconte !
L'article commence comme ça. Il était une fois un médecin-chef. Il avait beaucoup d'argent. 21 millions de francs, pour être plus précis. Ce n'était pas son argent, mais il était le seul à pouvoir décider de sa répartition. Ainsi, certains médecins recevaient plus d'argent, et d'autres, moins. C'est ainsi que commencent habituellement les comptes, mais cette histoire est réelle et se déroule à Berne, dans l'hôpital de Linzel. Le médecin-chef s'appelle Frank Stüber et est encore aujourd'hui directeur de la clinique d'anesthésie. Sauf que selon le règlement, Stüber n'aurait pas eu le droit de répartir comme bon lui semble cet argent. Ceci devrait se faire avec l'accord des médecins cadres. Stüber, une fois établi dans ses fonctions de médecin-chef, a modifié le contrat de ce collaborateur pour transférer tous les droits de répartition sur lui. Mais d'après l'hôpital, pas de quoi s'inquiéter. Il s'agit simplement de répartir les responsabilités. Et que Stuba n'a rien à se reprocher. Il n'est de toute façon pas le seul à avoir fait ça. Le problème, c'est qu'avec le contrôle de l'argent, les médecins-chefs sont capables d'établir un empire centré autour de leur personne, sans que personne, justement, ne pipe mot. Parce que l'argent, ça finance les recherches. Et les recherches, c'est le moteur de la carrière dans un monde académique médical. Donc, personne ne veut se les mettre à dos. En plus, les médecins-chefs sont des employés de valeur pour l'hôpital. En effet, les prestations de l'établissement sont très dépendantes des médecins-chefs qui sont connus, qui ont un énorme réseau et qui attirent les patients privés qui viennent renflouer les caisses. Plus de 100 millions de francs par an quand même. Pour les jeter dehors, il faut qu'ils aient vraiment fait une énorme bêtise. Ou alors pire, que la presse en ait eu vent et l'ait publié.
Ouais, mais bon, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent quand même. Il y a bien quelqu'un qui contrôle derrière.
Bon, y a bien un organisme de contrôle, mais ils sont impuissants. Hein. Par exemple, dans notre histoire des 21 millions à Berne, dans un interview, le président du conseil d'administration de l'hôpital Insel, Bernard Polva, concède ne pas connaître les salaires de ses subordonnés médecins-chefs.
Mais c'est pas son rôle, justement, de contrôler les salaires ?
Pas dans les hôpitaux universitaires. C'est justement l'université qui s'en charge. C'est d'ailleurs dans ces hôpitaux-là que la culture du copinage est le plus profondément ancrée. Car ici, les médecins-chefs travaillent aussi en tant que professeurs à l'Uni et font partie d'une des facultés les plus puissantes. Aucun directeur ne s'oppose à eux, car sa réélection dépend de leur bonne faveur. De plus, c'est à l'université que la camaraderie se forme pour se poursuivre ensuite à l'hôpital. Et ce double rôle les protège. Un médecin licencié par l'hôpital pour mauvais comportement restera néanmoins l'employé de l'université. Ça a été le cas notamment à Zurich. Tu imagines bien les problèmes qui découlent de cette intouchabilité ?
Non, je suis censé.
Écoute ça. Certains médecins dénoncent un régime de terreur, parlent même d'un climat de peur. Les médecins-chefs peuvent avoir une énorme influence sur la carrière des jeunes médecins et certains se comportent comme de vrais animaux alpha, profitant éhonteusement de leur influence. Il n'y a aucune contestation. C'est l'omerta, la loi du silence. Tout le monde se tait. Les mauvaises conduites, les fautes professionnelles, le sexisme qui peut mener à un licenciement abusif, tout ça, ça passe sans qu'il n'y ait aucune sanction ou conséquence. Le plus grand problème d'hôpitaux comme celui de Insel à Berne, c'est pas vraiment juste les quelques médecins-chefs qui abusent du système pour s'enrichir, mais d'une coterie générale qui leur permet d'agir impunément sans pouvoir être touchés par des organes de contrôle ni externes ni internes. Entre autres, soutenus par un réseau de collègues et de personnel qui se partagent le gâteau ou qui restent silencieux pour ne pas mettre en danger leur carrière.
Ah, merci, je l'ignorais.
Bah, maintenant tu le sais. Et d'un point de vue plus personnel, en tant que bernoise, je peux dire que je comprends enfin pourquoi les primes d'assurance maladie en ville de Berne sont les plus élevées de Suisse. Hein.
Et après vous avoir ouvert les yeux sur ce qui se passe dans le monde ces derniers jours, je pense que Ingénieur du Monde a quand même mérité un peu de pub. Ingénieur avec un E, car cette année, l'association a changé de nom et on opte pour l'écriture inclusive. Vous pouvez aussi retrouver notre journal sur les réseaux sociaux. Et ce mois-ci, l'Afrique est à l'honneur. On publie un article chaque vendredi. Et chaque semaine, on parle d'une personnalité africaine qui a marqué son époque. Le dernier de la série est déjà disponible, signé par Tam, notre responsable journal. Il vous fait découvrir le parcours de France Fanon. Fanon ou la voix des opprimés. Le titre de l'article n'est pas seulement une courte biographie de cet activiste et écrivain martiniquais, mais traite aussi de la guerre d'Algérie au centre de son œuvre, de la colonisation et de la violence comme concept philosophique. La suite de la série est aussi très prometteuse, avec des articles sur Thomas Sankara, Patrice Lumumba et bien d'autres. L'occasion de découvrir un peu mieux ce continent riche en histoire. And to all our non-French speaking audience, we're very sorry by the way. It's not that easy to follow us on social media, we know. Good news. We published last week an article in English. It's about time. It's a translation of Camille's article about the conflict in Nagorno-Karabakh between Azerbaijan and Armenia. armed confrontations have started in September in this very sensitive border area. The article is a real invitation to go back in time and try to understand the cultural, historical, and political potential origins of the conflict. Sorry, not sorry. We will be back in French again. J'espère que cette courte présentation aura fini de vous convaincre de nous suivre sur les réseaux. Car oui, IDM n'est pas là uniquement pour vous trouver des stages incroyables ou organiser la semaine du monde chaque année. C'est aussi une équipe de rédacteurs talentueux qui porte une vision singulière sur le monde.
Merci Rita pour cette page sponsoring, parce que oui, on peut sponsoriser nos propres podcasts.
Good morning everyone! On en a parlé tout le mois dernier, voire même peut-être trop parlé. Mais aujourd'hui, nous allons revenir sur les élections américaines qui ont lieu le 3 novembre aux États-Unis. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir deux spécialistes de la politique américaine. Grace Jenkins, républicaine, qui vit à Nashville, dans le Tennessee, et Colleen Murphy, démocrate, qui nous vient tout droit de New York. Tout d'abord, bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci pour l'invitation, c'est un plaisir.
Good morning, folks.
Alors, ma première question est pour Colleen. Comment avez-vous réagi à l'annonce de la victoire de votre candidat Joe Biden?
Ah, c'était vraiment un sacré soulagement d'apprendre
que... gagné.
Excusez-moi, qu'est-ce que vous avez dit?
Je crois qu'il y a eu un malentendu. Joe Biden n'a pas gagné. Les élections ont été truquées par le gouvernement chinois.
Of course. Oui, bien sûr, le gouvernement chinois, c'est aussi lui qui a créé le coronavirus pour détruire l'économie américaine.
Puisque vous mentionnez le coronavirus, Collins, permettez-moi de recentrer un peu la discussion. Ma prochaine question est donc pour Grace. Donald Trump a vivement été critiqué ces derniers mois concernant sa gestion de la crise sanitaire. Je rappelle les chiffres. À ce jour, plus de 230 000 personnes sont décédées du coronavirus aux États-Unis. Qu'est-ce que, selon vous, le président aurait dû faire pour éviter une telle hécatombe?
President Trump, God bless him, n'a absolument rien à se reprocher. Il faut arrêter d'écouter aveuglément les mensonges que diffuse CNN. Les États-Unis est le pays qui était le plus préparé à cette pandémie et qui a pris des mesures drastiques.
Oui, oui, en parlant de mesures, c'est vrai que boire du gel hydroalcoolique s'est révélé une technique très efficace pour combattre le virus. Vous en avez d'autres, des mesures intelligentes comme ça?
Alors déjà, n'utilisez jamais le mot « smart » avec moi. Puisque monsieur se croit plus malin que tout le monde, allez-y. Qu'est-ce que Sleepy Joe propose pour débarrasser le pays de cette vermine?
Ah ben c'est très simple. Il faut mettre en place des directives précises et intransigeantes pour lutter contre le virus. Chers compatriotes, écoutez-moi. Ceci est la seule et unique solution pour réunifier ce magnifique pays qui est les United States of America.
C'est-à-dire? Vous pourriez développer un peu davantage, Collins?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire, il faut... vous saviez que Trump était raciste?
Colleen, je ne vois pas vraiment le rapport
et
avec...
Et vous croyez que c'est mieux d'avoir un fils alcoolique accro à la cocaïne comme Hunter Biden?
C'est toujours mieux que d'avoir une perruque orange à la place des cheveux.
Au moins, s'il président plaît, Trump n'a pas de pacemaker.
C'est pas un pacemaker, c'est un
Sleepy
pacemaker.
Sleepy Joe,
là-bas.
He's a zombie. He'll die before being installed.
And then
Alzheimer.
Arrêtez, où est-ce que vous avez trouvé cette casserole?
Non,
franchement, en finie, coupez.